Les conseils pratiques. C'est peut-être un peu curieux de vous donner des conseils pratiques parce que ça doit normalement être réservé plutôt aux visites que vous faites au prêtre qui lui donne des conseils spécifiques sur ce dont vous avez besoin en répondant à vos questions, en connaissant votre condition, votre devoir d'état, les problèmes particuliers que vous pouvez rencontrer dans votre vie. À ce sujet, au début de la retraite, probablement, M. l'abbé Troidec a dû vous dire de vous inscrire, de venir voir les prêtres. Et alors, en général, il y a deux types de réactions. Il y a celles qui se précipitent pour s'inscrire aux portes, puis il y a celles qui attendent le dernier jour, quand il y aura trop de monde, et puis qu'il n'y aura plus de place pour elles. Bon, alors il est encore temps, vous pouvez encore vous inscrire, si vous n'avez pas vu l'un des quatre prêtres qui sont là. Puis en général, le dernier jour, bon, même si on a été... Moi, j'ai fermé le robinet pas mal pendant la retraite parce que j'avais d'autres choses à faire que la retraite, malheureusement. Bon, donc on peut aménager le dernier jour. Donc, essayez de voir au moins une fois un prêtre, c'est important. Pas vous dire, mais j'ai rien à lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire Bon, non, pas ça. Hein, allez prendre contact, ne serait-ce que faire connaissance, dire comment la retraite s'est passée, quels sont... Si ça s'est bien passé, pourquoi? Si ça s'est mal passé, pourquoi? Etc. Voilà. Bien. Ensuite, en général, la première objection qui vient pour les résolutions, c'est dire à mon père, il suffit que j'en prenne pour que je les tienne pas. Donc, c'est pas la peine d'en prendre. C'est mauvais calcul. D'autant plus qu'en général, le Seigneur, si vous prenez des résolutions appuyées sur un sage jugement, va bien sûr vous aider à les pratiquer, ces résolutions. Et vous n'allez pas devenir plus mauvaise parce que vous avez pris une résolution. Mais vous allez peut-être voir davantage les occasions de la pratiquer. Et le bon Dieu va vous fournir aussi des occasions de la pratiquer, cette résolution. Alors dites pas, je suis plus mauvaise depuis que je fais des retraites ou depuis que je prends des résolutions. C'est pas vrai. Vous avez eu, je pense, je les ai vus hier, il y a des petits feuillets qui restent encore. Là, on va le commenter ensemble. Alors ici, je crois que je vais m'inscrire pour recevoir le bulletin du tiers ordre de Saint-Pie-X, parce que avril-mai 2005, c'est mon sujet. Alors on va lire ensemble. Ça vous dispense pas d'écrire, même les tertiaires de Saint-Pie-X, parce que je vais commenter. Mais dans cet extrait du père Colin, la qualité de nos résolutions. C'est bien? C'est clair? C'est bon? Vous pouvez demander le bulletin. Bon. Ça peut être une occasion de visite chez les prêtres de Saint-Pie-X. Voilà. Avril-mai 2005. Et alors le mot de l'aumônier est sur le moment présent. Ah, c'est bien ça. Donc, pas d'inquiétude pour ce qui vient. La loi de la sanctification se réduit au devoir du moment présent. Ah. La vie entière sanctifiée, c'est l'instant actuel à consacrer à Dieu. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Il vient, il y a le futur proche, après retraite. Le présent seul est réel et amène avec lui un devoir. Il est déraisonnable d'accabler son esprit par la perspective de millions d'actes à rapporter à Dieu, de sacrifices à renouveler sans cesse, de difficultés sans nombre à surmonter. Tout cela, c'est la sainteté envisagée de manière abstraite, à travers le verre grossissant de l'imagination. Qu'est-ce que c'est que la vie concrète? C'est un acte à rapporter à Dieu, un devoir à remplir, une croix à accepter, une tristesse à supporter, parfois aussi, heureusement, un délassement à prendre sous les yeux de Dieu, une joie à partager avec lui, ou une soirée passée près de lui. Réduire la sainteté à cet unique devoir actuel, c'est la rendre facile, et c'est entrer dans les vues de Dieu, qui n'a pas voulu nous charger d'un fardeau impossible à porter. Oui, vivons au jour le jour, ne nous préoccupons pas du lendemain, excessivement, souvent parce que occupé, ça se transforme souvent en préoccupation. Accumuler par l'imagination toutes les pierres éparses sur la route qu'il faut parcourir et en faire une montagne qui barre le passage, puis se dire tristement en croisant les bras, à quoi bon entreprendre le voyage? Jamais je ne pourrai surmonter pareil obstacle. C'est se tromper à plaisir et se rendre la vie impossible. L'imagination rend aux âmes de détestables services. L'avenir que ces âmes ne possèdent pas encore les hante par des craintes chimériques, par des prévisions absurdes. Parole de Saint François de Sales. Le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui et ce sera le Dieu de demain. Voilà. C'est toujours le même Dieu. Le moment actuel seul compte, il renferme seul des biens immenses et nous pouvons à chaque instant l'enrichir pour le ciel. Car dans chaque moment, il y a Dieu. Père de Caussade qui parle dit, il dit les espèces eucharistiques de l'instant présent. C'est très fort comme expression. Les espèces eucharistiques du moment présent. Car Dieu est caché sous chaque instant. Le moment actuel seul compte. Il renferme des biens immenses. Et nous pouvons à chaque instant l'enrichir pour le ciel, car chaque moment contient Dieu. Voilà. Bon, voilà, c'était le mot de l'aumônier, donc, d'avril-mai 2005, hein, de monsieur Abbé Fernandez. Très bien. Très bien, très beau. Donc, résolution, oui, en prendre. En prendre qui soit dans une atmosphère donnée, qui est donnée par un des tout premiers chapitres du combat spirituel, qui s'appelle de la défiance de soi-même et de la confiance en Dieu. Voilà. Se défier de soi, de son intelligence et de ses jugements, de sa volonté, fût-elle très énergique ou très faible. Se défier de son imagination, se défier de ses bonnes intentions qui pavent l'enfer, dit-on. L'enfer pavé de bonnes intentions. Se défier surtout de nos affections, ce qui nous pousse, ce qui nous dirige. Purifier l'œil intérieur. Donc défiance de soi, confiance en Dieu. Défiance qui vient en partie de nous. C'est le travail de l'humilité, mais défiance surtout qui est une grâce à demander à Dieu, de nous défier de nous-mêmes. Et puis surtout, bien sûr, dans l'autre balance, la confiance en Dieu. Quels sont les motifs de la confiance en Dieu par rapport à nos résolutions? C'est Dieu qui est l'auteur de notre vie spirituelle, c'est lui qui mène la barque, c'est lui qui nous a aimés en premier, et c'est lui qui nous aimera encore en dernier. Quand même, nous pourrions manquer à son amour, c'est toujours lui qui triomphera. Alors, il faut marcher dans cette atmosphère-là. D'où la première résolution, il me semble, la première décision fondamentale, c'est le regard sur Dieu. Le regard sur Dieu. Avoir cette vue très large de Dieu, qu'on obtient en général un peu pendant la retraite, que j'appellerais la vue de conviction. Une conviction profonde que le bon Dieu nous aime, que le bon Dieu veut notre bien, que le bon Dieu veut nous sanctifier, que le bon Dieu veut beaucoup plus nous sauver que nous-mêmes, que le bon Dieu nous aime nous-mêmes et aime tous ceux que nous aimons beaucoup plus que nous. Et qu'il a des moyens de sagesse beaucoup plus intenses que les nôtres pour réaliser cet amour définitif en nous. Et ça, ça devrait être l'œil vivant sur notre fin ultime, sur notre Dieu. Alors bien sûr qu'on l'entretiendra spécialement par la prière, les actes de piété, c'est vrai. Par notre fidélité au devoir d'État. Ne prenons pas des résolutions au-dessus, à droite, à gauche ou en dessous de notre devoir d'État. Il faut que ça soit dans le devoir d'État. Au sein du devoir d'État. Ce qui facilite le devoir d'État, c'est une bonne résolution. Ce qui ne facilite pas, c'est une mauvaise résolution. Voilà. Donc, bien voir ça. C'est important. Ensuite, peut-être vous en parlera-t-on, je ne sais pas, au dernier sermon, ou la dernière instruction de la retraite. Pendant une retraite, on reçoit. On reçoit beaucoup. On voit, on connaît mieux, on sent des choses. On comprend des choses, on goûte des choses. Et on aurait tendance à croire que c'est là l'essentiel des grâces de la retraite. Ce qu'on a vu, ce qu'on a senti, ce qu'on a goûté, ce qu'on a compris. Eh bien, c'est faux. C'est le dessus de la marmite. L'essentiel des grâces reçues par la retraite est essentiellement invisible. Vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas toutes les... Certainement que vous en connaissez quelques-unes, bien sûr, mais pas toutes les grâces que vous avez eues pendant la retraite. Et que le bon Dieu va faire germer en temps voulu. C'est très beau dans les pèlerinages suisses de Louis Veuillot. Il rencontre durant son pèlerinage en Suisse un père jésuite qui lui parle de l'oraison. Et alors c'est très beau, il explique que la fidélité à l'oraison quotidienne fait que Dieu dépose des germes dans la terre de notre âme, et qu'à un moment, il les fait germer et pousser. Et ça peut rester très longtemps en terre. Il y a des germes qui peuvent rester très longtemps en terre. D'où l'importance de la fidélité quotidienne, à notre prière du matin du soir, à notre oraison, notre lecture spirituelle. Dieu fait pas pousser tout de suite. Vous allez dans le jardin, je sais pas, au moment du printemps, bon, parfois quand il y a beaucoup eau et beaucoup de soleil, c'est vrai qu'on voit presque à vue d'œil jour après jour, ou heure après heure. Mais enfin, on ne voit pas pousser l'herbe, hein. Vous pouvez rester devant, vous ne la verrez pas pousser. Ouais. Bon. Bon Dieu fait les choses petit à petit. Tout le cycle de la nature s'avance par petites choses. Et on peut dire que notre vie spirituelle, puis j'ai vu ça là, c'est très bien, une citation tout à l'heure, c'est faire très petites choses avec un grand cœur. Donc il faut entretenir ce grand cœur. On prend généralement pendant la traite une conviction plus grande, une conviction de foi, une conviction d'amour, une conviction de confiance. Alors il faut alimenter cette conviction. Vous voyez, aujourd'hui on se présente à un travail, puis on dit « Quelles sont vos motivations ?» À être motivé. C'est vrai psychologiquement. Un gars qui est pas motivé, qui est gnangnan, il va pas vendre les produits qu'il doit vendre. Ah, c'est comme ça. Alors nous, est-ce que nous sommes motivés pour Dieu ? Vous êtes une retraite, c'est pour ça. Et cette motivation doit s'approcher des motifs objectifs. Quand est-ce qu'un motif devient motivation ? Quand il est assimilé. Dieu m'aime. Ah oui, je suis aimé vraiment intérieurement. J'ai conscience de ça. Et ça devient le moteur de ma vie, le mobile de ma vie. Et ça mobilise mes forces. La motivation surnaturelle, faut toujours la remonter. Pas seulement pendant les retraites, pendant nos réflexions mensuelles, pendant nos oraisons, pendant nos messes du dimanche. Faut remonter la motivation. La motivation de foi, motivation d'amour. C'est Dieu qui m'aime. C'est Dieu qui met le bien en moi. Et j'espère que j'y réponds. C'est Dieu qui est tout puissant et tout bon. C'est Dieu qui a toutes les solutions à tous les problèmes, toujours. Bon Dieu a toutes les solutions à tous les problèmes, toujours. Pour peu qu'on le laisse faire, qu'on regarde vers lui. Qu'on lui dise pas, mon Dieu, laissez-moi faire. Il y a des tempéraments qui sont comme ça. Hein. Volontaire, intelligent, résolu, laissez-moi faire. Mon petit ami, je vais te laisser faire, attends. J'ai prévu un filet pour toi, mais tu vas te dégringoler la figure. Bon. Alors, attention à ça. Bon, il y a ceux aussi qui sont trop pusillanimes, qui attendent que le bon Dieu fasse tout. Hein. Alors, le naturalisme activiste ou le quiétisme. Bon Dieu fera tout. Ben non, il fera pas tout. Parce qu'il faut coopérer à la grâce. Il faut les deux. Concours des deux. Concours mystérieux des deux. Donc, motivation. Les motivations essentielles, profondes, surnaturelles. Qui vont faire quoi ? Qu'on va mobiliser les moyens. Voilà, c'est tout en Sion, c'est facile. Motivation, conviction, là, c'est le centre, c'est le cœur. Où est-ce que j'en suis, là, pendant une retraite, c'est le moment. Où en est ma conviction, ma motivation essentielle, fondamentale, ou mes motivations principales, surtout si elles sont déviées, déréglées, vont pas jusqu'au bout. Bon, conviction et motivation. Après, mobilisation. Mobilisation des forces et des moyens nécessaires en vue de conserver cette conviction et cette motivation principale, mobiliser les forces, mobilisation, des intentions, des affections, voilà, la tête, le cœur, les mains, l'action, voilà. Et après, attention, le but des résolutions, c'est des actes, pas des sentiments. Je sens, donc je suis. J'agis, donc je suis. Ça, c'est du naturalisme. Poussé à bout, bien sûr, à cause du péché originel. Hein? Je sens, donc je suis. Hein? Je sens, donc c'est parfait, tout va bien. Je pense, donc tout va bien. Non. Ou j'agis, donc tout va bien. Non. Une place pour la pensée, une place pour la volonté, une place pour les sentiments, une place pour l'action. Et une place pour le laisser faire. Dosage. Et donc, exécution. Des actes. Exécution. En s'attendant à l'échec. Pas pour se décourager, mais en se disant, bon, je vais faire, je vais tâcher d'avancer. Un bon commencement, c'est la moitié du tout. Mais je prévois que je vais me ramasser quelques gamelles. Comme ça, je serai moins surpris quand ça va m'arriver. Mais je prévois plus loin que les gamelles. Je vais aussi me relever. Retour perpétuel vers Dieu. Je vais me relever. Dieu va me relever. Faut transpercer nos échecs, transpercer nos moments de chute, des fautes. Prévoir l'après-chute, l'après-faute, l'après-échec. L'après-chute, l'après-échec, l'après-faute, c'est le bon Dieu qui m'attend. Les bras grands ouverts pour repartir. Et mon petit gars, si tu veux me donner la main, moi qui suis l'enfant Jésus, fais-toi petit. Si t'es trop grand, ma petite main t'atteindra pas. Voilà, humilité. Avant d'entrer donc dans le commentaire du mot là, encore autre chose. Attention aux âmes yo-yo. En haut, en bas, ouh. Et puis la vie spirituelle, yo-yo, tout. Bon, les âmes yo-yo, pas basées sur l'immutabilité de Dieu. Alors, racontez une petite histoire que je connais depuis 2 ans, que je trouve très belle, très bonne pour nous prêtres religieux et pour vous âmes qui voulez vous sanctifier dans le monde. C'était un novice cistercien. C'était une âme yo-yo. En haut, en bas, un jour ça va bien, pouf, tout est merveilleux, puis le lendemain, plus rien du tout, tristesse. Et il entendait son maître des novices qui lui disait « Bon Dieu est immuable, bon Dieu change pas, bon Dieu à tout instant est toujours le même. Comment ça se fait s'il est toujours le même que moi je suis toujours... » Bon, alors, résolution de retraite. Résolution de retraite, pour moi novice cistercien. Quand tout ira bien, tu te diras, ça va pas mieux que quand ça allait mal. Fin de la retraite. Ah, je suis transformé. Ah, mon épouse sourit. Bon, rentre à la maison. La retraite, la rend joyeuse. Ah, très bien. Bon. Ça va pas mieux quand ça allait mal. Je suis pas sûr d'être encore transformé profondément. C'est pas pour douter de Dieu que je dis ça. C'est pas ça. Mais je me défie de moi. Oui, c'est vrai. J'ai une bonne atmosphère, je sens forte, etc. Mais bon, je dois me défier de moi. Je suis faible. Donc, je prends les moyens de garder la confiance en Dieu, mais je prends les petits moyens qui vont m'aider à garder les grâces de la retraite. Mais attention, ça va pas mieux quand ça allait mal. Je garde mes tendances qui vont reprendre un peu du terrain. Je garde mes défauts. Je garde le milieu dans lequel je vis qui vient piquer ou qui vient toujours me tenter au même endroit. Telle personne qui m'impatiente, tel travail. Je suis dans les mêmes conditions. Ah, le bon Dieu est au milieu de tout ça, d'accord. Enfin, j'ai les mêmes conditions externes, internes, etc., bien souvent. Donc, quand ça va bien, ça va pas mieux quand ça allait mal. Et quand ça va mal, ça va pas plus mal que quand ça allait bien. Dieu n'a pas changé. Le Dieu du moment où je me sens bien, le Dieu du moment où je me sens mal, le bon Dieu est toujours là. Il est toujours là. Alors, une résolution pour pas dépendre de nos, apprendre de façon pratique à poser des actes indépendamment du sentiment. Ça, c'est important. Et c'est difficile, je pense, pour des âmes féminines. Je dis pas les âmes de femmes, je dis les âmes féminines. Je précise. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des âmes féminines. Qui font dépendre leur piété sensible du sentiment. Alors il faut apprendre à poser des actes raisonnables, droits devant Dieu, indépendamment du sentiment. Que ça me plaise beaucoup, bah tant mieux, ça me plaise beaucoup, ça va un peu m'aider. Ou que ça me plaise pas du tout, c'est raisonnable, c'est bien, c'est droit. J'ai une grâce pour ça, c'est objectif, c'est immuable. Donc je vais poser cet acte-là. Je sais que c'est droit, que c'est bien, il faut que j'agisse dans ce sens-là. Pas faire dépendre nos résolutions, comme nos actions, comme le regard sur nous-mêmes, du sentiment. Ce qui tue notre vie spirituelle, le sentimentalisme, c'est propre à notre époque, toute notre époque est comme ça. Le volontarisme, qu'on reproche, paraît-il, aux exercices de Saint-Ignace, je ne sais pas s'il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça. Mais disons, admettons. L'intellectualisme, j'ai compris, donc tout va bien. Non. Si tu peux avoir tout compris, si tu as un cœur rétréci, orgueilleux, égoïste, ça sert à rien que t'aies tout compris. Vaudrait mieux que tu comprennes un peu moins, que tu sois un peu plus généreux. Et le moralisme, tout vouloir moraliser. Alors, moralisme ou jansénisme, je sais pas, enfin, entre autres, c'est une des formes du moralisme. Tout vouloir moraliser, tout passer au crible, c'est bien, c'est mal, tac, tac, paf. Pas selon la sagesse de Dieu, selon mon petit jugement à moi. Eh bien, ce que moi je pense bien, mal, ce que moi je pense mal. Ou, eh bien, ce que ma classe sociale, ma famille, mon milieu professionnel, ma place dans la société pense que c'est bien. Ou moi tradis ce que je pense bien. Ben non, c'est faux. Bon Dieu, il voit pas comme nous. Même si on est tradis, impeccable, bien droit, on a bien conviction, bien pieux, bien tout ce que vous voulez, on n'a pas le savoir de Dieu. On doit se défier de notre savoir. pas de fidélité pharisaïque. On n'est pas meilleur que les autres. On a peut-être une plus grande grâce que les autres parce qu'on voit des choses. On ne peut pas dire qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas, ou qu'on ne sait pas où est le bien. Mais on n'est pas meilleur pour ça. Et peut-être qu'on sera jugé plus sévèrement parce qu'on sait mieux. Alors vaut mieux pas trop la ramener. Nous, on est les meilleurs. Non, on n'est pas les meilleurs. Pas du tout. Et il y a des âmes dont il faudrait souhaiter qu'elles connaissent le bon Dieu, parce qu'elles sont pleines de sincérité, pleines de générosité. Il leur manque l'œil, la lumière. Mais le jour où elles auront l'œil, ah, c'est des âmes formidables. Quand les Juifs vont se convertir, je vous garantis, ils vont nous dépasser. Hein. Les Juifs, les francs-maçons, là, tout ce que vous voulez. Les communistes convaincus. Quand ils se convertissent, ces gens-là, ils nous en mettent plein la vue devant. Ben oui. Alors, notre petite fidélité peut peut-être obtenir qu'on convertisse des chefs, voilà, des élites, qui seront meilleurs que nous et qui marcheront devant nous. Tant mieux. Bon. La discrétion doit présider au choix de nos résolutions. Ni trop, ni trop peu. Ni trop de résolutions qu'on ne va pas tenir du tout et qui ne sont pas du tout adoptées, ni trop peu. En principe, de 1 à 3 résolutions, ça doit suffire. Pas plus. 3, c'est déjà beaucoup. Enfin, ça dépend de quel type de résolution. Si c'est des résolutions vraiment de détail, des fois, c'est important. Il y a deux types de tempéraments. Il y en a qui aiment bien les vues un peu synthétiques, qui leur permettent ensuite de mettre chaque chose à sa place. C'est assez courant, ces âmes-là. D'autres, il leur faut des petits détails pour être liés à des grandes choses. D'autres ont un bon équilibre entre les deux, ce qui est plus souhaitable, évidemment. Enfin, il y a ces 3 types d'âmes du point de vue esprit, du point de vue esprit de la vie spirituelle. On rencontre assez souvent celles qui aiment bien une idée synthétique qui va permettre ensuite de mettre toutes les choses à leur place. D'autres, c'est plutôt des âmes de détail qui tendraient des fois à être pointilleux, hein, ou pointilleuses. Mais le détail leur permet de réaliser dans la petite chose, ils arrivent à voir la grande idée qui les aide. Bon, très bien. Le mieux, c'est d'être équipé des deux côtés. Peu, mais bien. Peu, mais toujours. Peu, mais bien. Donc, peu de résolution, mais bien. Bien vérifié, bien. Mais toujours. Alors, nous nous garderons des emballements de l'imagination et de ceux de la présomption, voilà, qui est contre la défiance de soi. Même après une fervente retraite, tout n'est pas possible ni réalisable. Attention de ne pas mettre la maison à feu et à sang avec vos résolutions. Ouais, la télé dehors. Oui, doucement, attendez. Bon, il faut la mettre dehors, mais allez-y quand même, mollo, parce que sinon le mari va vous faire passer par la fenêtre. Alors, d'accord, pensez-y toujours, n'en parlez pas trop, voyez, étudiez le terrain, l'ennemi, comment on va pouvoir mettre la télé par-dessus bord. Faut peut-être envoyer le mari d'abord en retraite pour que ce soit remettre un peu à niveau, là. Ah oui, mon père, alors ça, c'est une autre paire de manches, hein. Mon mari, il mettra pas, et puis, bon. En plus, qu'il va croire qu'après, c'est moi qui vais diriger la maison, alors. Il veut pas. Bon, qu'elles soient peu nombreuses, discrètes, nos résolutions le sont encore, donc pas trop nombreuses. Oui, 3, c'est vraiment maximum. Si on court après 12 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. C'est comme disait, je sais plus, un écrivain, là, catholique. Il disait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a qui ne voulaient tirer que sur des lions. Moyennant quoi, ils ont même pas tué des lièvres. On vise des gros trucs, puis ce qui est à notre portée de main, on le prend pas. Parmi la multitude des résolutions possibles, il importe d'en dégager quelques-unes qui soient les meilleures, les plus adaptées, les plus nécessaires, les plus fécondes. Oui, c'est très bien, une résolution qui soit comme une résolution mère. Oui, elle est suffisamment profonde pour qu'ensuite elle puisse rayonner sur plein de choses. Ça, c'est les meilleures, celles-là. Parce qu'elles sont encourageantes, elles sont fécondantes, c'est magnifique ces résolutions-là. Quand le bon Dieu nous fait la grâce d'une résolution comme celle-là, tenons-la bien, hein, tenons-la bien. C'est celles qui contribueront le plus efficacement à notre avancement spirituel. Donc peu nombreuses. Ensuite, claires et précises. Pas en gros, en vague, je serai plus gourmande. Non, je ne mangerai pas entre les repas. Je me détournerai de la pâtisserie. Je changerai de trottoir. Je n'irai pas fouiner en dehors des heures dans le réfrigérateur. Si possible, qu'elle soit positive. On le dit psychologiquement, c'est mieux de dire « je vais faire ça » plutôt que « je ne vais pas faire ça ». Parce que « je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça ». Faut pas que je fasse ça, que je garde la patience. Ah, c'est le meilleur moyen de réveiller l'émotivité, l'affectivité et puis de tomber dedans. Non. Je vais faire ça. Et pour éviter ça, évidemment, je vais éviter le mal contraire. Une parfaite netteté d'expression. Éviter le général, le vague, le flou. Plus elles sont précises, plus notre travail gagne en qualité. Et plus le contrôle est facile. Ah, mon père, je sais pas trop, mon défaut dominant, mes résolutions, etc. Ceux qui vivent avec vous, qu'est-ce qu'ils demandent? Mon mari, mes enfants, vos collègues de profession, le prêtre qui vous fréquente, que vous fréquentez habituellement, qu'est-ce qu'il vous dit? Cherchez pas ailleurs. Vous pouvez donc reprendre certaines choses, les reprendre mieux, avec des moyens adaptés. Écrire nos résolutions. C'est vrai que la pensée, on n'est pas des anges, elle a besoin de se matérialiser dans l'écriture. Quand c'est couché sur le papier, déjà on voit un peu plus clairement. Formuler ce qu'on veut faire. Et puis en plus, ça supplie aux défaillances de la mémoire que l'on peut réveiller à chaque récollection du mois, par exemple, une fois par mois. On relie un peu ces résolutions. En général, on ne veut pas trop les relire parce qu'on voit que ouh, je ne les ai pas trop tenues. Alors, ça va se perdre sous la pelle de papier. Je ne sais plus où elle est, je ne sais plus où elle sera. Vous avez beaucoup les fréquenter, vos résolutions. Bon. Ensuite, qu'elles soient adaptées à notre personnalité morale, à nos devoirs, aux relations des personnes avec qui nous sommes, à nos besoins. Une âme qui prie déjà très bien, il faut peut-être qu'elle voit du côté de l'activité. Une âme qui est très active, il faut peut-être qu'elle voit du côté de la prière. En général, les quatre choses où j'ai noté ça, bon, donc la prière, les résolutions que fait concerner la prière, le travail professionnel, le devoir d'État en gros, les relations des personnes avec qui nous sommes. Quelque chose qui concerne un peu ces trois choses-là. On peut s'examiner un peu en gros sur ces trois choses-là, voir s'il n'y a pas une petite résolution. Ça fait trois résolutions, vous voyez. Bon. Généralement, notre défaut dominant se trouve dans l'un des trois ou dans les trois. Ou dans les trois, oui. C'est parce que on est le même bonhomme partout, ou la même dame partout. Alors, notre personnalité morale, qu'elle réponde à notre état d'âme. Voilà. Alors, quel tempérament je suis. Des fois, la connaissance des tempéraments psychologiques, c'est intéressant. Je suis primaire, hein, par autre quart de tour, ou secondaire, ça met du temps à démarrer, bon, ou trop, ou ça donne ça, bon, ça mijote, actif, non actif, etc. Bon, ça peut être utile. À nos besoins, à nos difficultés, nos attraits, tenir compte de nos attraits, c'est important. Et avoir un idéal, et puis c'est attiré. Et quand on est attiré, ben, on écarte ce qui gêne cette attraction. Les inspirations de la grâce. Pendant une retraite, bah, vous avez réfléchi, prié, consulté, parlé. Bon. Et puis, faites-vous vérifier. C'est sûr qu'un grand moyen de persévérance dans vos résolutions, c'est bon, au moins la confession régulière, mais si vous faites un peu de direction, un peu une fois par mois, là, ou une fois tous les deux mois, je sais pas, ou par écrit, si c'est nécessaire. Oui. Des fois, rien que le fait d'écrire pour ceux qui sont loin, ça permet de clarifier. Vous êtes édifié. Un jeune homme, pendant 3 ou 4 ans, qui était dans des pays très éloignés, je pouvais pas lui répondre, eh bien, pendant, je pense, 3 ou 4 ans, chaque mois, la lettre de direction. Et je lui répondais pas, en plus, hein. Je lui répondais pas. Bon, c'était un peu, bon, mea culpa, mais je répondais pas. Elle était édifiée. Bon. Alors, nous pourrons trouver, donc, pour guider et fixer notre choix, donc, près de ceux qui nous sont proches. Bon. Alors, renouveler nos résolutions. Et les renouveler surtout à l'occasion des réussites. Merci, mon Dieu. Vous m'avez aidé. Ça va mieux, je me sens mieux, c'est mieux. Mais renouvelez aussi à l'occasion des échecs. Le bon Dieu, le diable, il en a à votre courage et à votre confiance. Et dites-vous, dans l'acquisition des vertus morales, ce que le bon Dieu attend, c'est la pratique de vos vertus théologales surtout. Ah, moi, je veux dire tempérant, ou oh, je veux être patiente et douce. Ouais. Eh bien, dans les échecs, tu vas surtout avoir à pratiquer la foi, la confiance et l'amour. Alors, les échecs, les valoriser, il faut faire feu de tout bois, et spécialement du bois de l'échec, momentané, les chutes. Quand on prend des résolutions à l'occasion de retraite, si on veut qu'elles conservent vigueur et efficacité, on les renouvelle fréquemment. Le renouvellement par le désir et l'intention se fait surtout, il est vrai, dans l'oraison. C'est vrai. L'oraison, la communion, les confessions, les rencontres avec le bon Dieu, les rencontres sacramentelles sont très très utiles. Même une intention générale. Pour ça, d'ailleurs, pendant que j'y pense, avant que j'oublie, il peut être très bon si vous avez déjà un peu saisi quel est votre idéal personnel. Chacun doit avoir un... Bon, il y a l'idéal chrétien en général, mais il y a l'idéal chrétien adapté à moi. Alors, comment vous allez faire? Eh bien, je vous conseille de chercher une petite devise. C'est très bien. Pourquoi? Psychologiquement, parce que ça met de l'unité, et on met dans ça, eh bien, tout ce qu'il y a de notre personnalité, notre conviction, etc. Voilà. Courage, confiance. Courage, cœur à l'ouvrage. Malgré les orages. Ah ouais, c'est facile, c'est tu. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vive la joie quand même ! Bon. Une religieuse, c'était « Tralala, le bon Dieu, il est content ». C'est original, hein ? Bon. Peu importe, celle qui vous va. Ça peut être une belle pensée que vous mettez sous forme de formule, et puis tac, vous dites « Ah, rappelez ça. Hein. Dieu m'aime toujours. » Parfait. Dieu m'aime toujours. Mon Dieu, vous êtes toujours là. Impossible que vous ayez des oublis. Voilà. Impossible. Etc. Choisissez une petite devise. Voilà. Vous pouvez en changer, c'est pas interdit. Ça peut durer quelque temps. Avoir une devise dans laquelle vous sentez que c'est ça qui vous... Tiens, ça vous motive, ça vous mobilise. Voilà. Bon. Le feu baisse peu à peu, à moins d'être alimenté, il finit par s'éteindre. Ainsi, nos décisions, même les plus vigoureuses, ont tendance à fléchir, à se dégrader. L'usure des temps, l'usure des personnes, l'usure de la fatigue, l'usure des épreuves. D'où la nécessité de reforger sans cesse, de revoir, de se remettre tranquillement devant l'idéal. Les reprendre à la fin de nos oraisons, à la fin de notre chapelet. Voilà, glissons peut-être même dans les intentions de notre chapelet. Ça peut être bien ça. Plus ça devient intéressant le chapelet parce que... Ah, je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant, mais on se lasse, c'est mécanique, tatati, tatapin. Alors, on met une intention... Ah, tiens, première dizaine, c'est pour ça là. Il faut que je la dise quand même, quoi. Ah, bon. À la fin de nos oraisons ou de temps à autre dans le courant de notre journée, chaque fois que nous y aurons manqué. Excellent moyen de maintenir notre bonne volonté en haleine. Alors, les contrôler régulièrement. Contrôle régulier. Si possible, par quelqu'un d'autre que nous. C'est mieux. Ou quelqu'un avec nous. Parce qu'on est toujours un peu borgne. Bon. Si nous vivons d'une vie intérieure profonde, la conscience est toujours en éveil et ce contrôle s'exerce instantanément à chacune de nos fautes. Ah, mon père, l'examen de conscience, ma torture. Eh bien, non. L'examen de conscience, voyez-vous, c'est un coup d'œil vers le bon Dieu en nous. Alors, où j'en suis? Je veux l'aimer? Je veux faire ce qui lui plaît? Bon. Je veux le prier? Je veux agir pour lui? Ben, c'est bon. Et puis, à la fin de journée... Alors, bien sûr, il y a l'examen général, et puis l'examen particulier par rapport aux défauts dominants, puis l'examen de prévoyance. Ouh là là, c'est compliqué tout ça. Un regard, un coup d'œil, où j'en suis, le coup d'œil du cœur. Est-ce que mon cœur est bien à Dieu? Est-ce que je veux aller à Dieu? Bon, j'ai un doute. Bon, je pose quelques actes de générosité pour bien réveiller le cœur qui soit dans la direction de Dieu. Bon, établir un contrôle plus général, certains le disent par écrit, ou particulier, ou à midi, ou le soir, comme on peut, mais un coup d'œil général, voilà, où j'en suis avec le bon Dieu? Telle chute notable. C'est pas la peine, à la fin d'une journée, on a la tête comme ça, de vouloir examiner tout. Ça sert à rien. En plus, vous allez peut-être ramener des tentations, des soucis, de je sais pas quoi. Prenez un moment où, bon, au moins, où vous sentez, bon, vous pouvez examiner calmement un peu votre journée. Et peut-être, il faut le faire la semaine seulement. Je sais pas. Voir. Bon. Ne pas surcharger, compliquer notre vie spirituelle. Alors oui, si vous avez une faute, bon, il y en a, ils en envoient trop, bon, il y en a, ils en envoient pas assez. Bon. Vous en repérez une et vous exercez votre contrition sur celle-là, le reste vous laissez, vous laissez. Si vous exercez bien votre contrition sur cette faute que vous avez vue d'aujourd'hui, ah, j'ai mal répondu, sans faire non plus du culpabilisme inutile, bon, mais, bon, bah, je vais regretter ça, puis je vais essayer de mieux faire, voilà, et on repart. Aveu, regret, bon propos, et puis... On essaie de réparer. Comment il s'appelait ? Don Banquet, il disait le grand... Comment il disait ça ? La grande carence, le grand défaut de la vie intérieure, vient des défauts mal reconnus, mal acceptés, mal reconnus, c'est-à-dire on les voit, mais bon, l'amour propre, il l'aime pas trop, mal reconnus, mal accepté et mal réparé. On fait rien. On sait que c'est par là, on l'accepte plus ou moins, mais on fait rien contre ce défaut. Parce qu'on se dit, ah, si j'attaque ce défaut, mais ça va être encore pire. Ah oui, je suis impatient. Alors si je m'attaque à mon impatience, oulala, ma nature, ma chair, pas au sens seulement la chair, le corps, mais l'homme, le vieil homme, et puis le démon, ils vont faire la grosse caisse. parce que je fais un effort sur mon impatience. J'ai jamais été aussi impatient que depuis que j'ai pris cette résolution. J'ai jamais été aussi gourmande que depuis que j'ai pris une résolution contre ma gourmandise en carême. Oh là là! Ben oui, bien sûr! Parce que la nature s'inquiète, et puis le démon aussi s'inquiète, elle va peut-être faire des progrès. Eh, c'est bon signe, avancez! Perdez pas votre résolution. Le démon en a à votre courage, à votre conviction, à votre confiance. Bon. Voilà. Les résolutions sont le prolongement naturel et l'heureuse fructification de nos retraites, en même temps qu'elles constituent une sauvegarde assurée contre la torpeur, la sédie, la paresse spirituelle. Alors comment se décider? Alors d'abord, bien sûr, des résolutions sur ce qui concernerait des péchés mortels habituels, s'il y en avait, ou plus ou moins réguliers. Là, faut prendre une grosse résolution avec un moyen et prévoir une pénitence si vous y tombez. Ah, dis, j'y tomberai pas. Prévoyez une pénitence si vous y tombez. J'irai me confesser. Et j'attendrai pas. Et j'irai pas me dire, me morfondre dans ma misère, en attendant, j'ai peut-être pas la contrition, etc. J'irai dardard me confesser. J'ai fait un péché mortel. Ah, mais je sais pas si j'ai la contrition, si ça fait assez pouette-pouette, là. Vous avez envie d'y retomber? Non, bah alors allez vous confesser. Sans tarder, tracez. Première chose à faire. Avant tout. Tant que possible. Pas par téléphone, on peut pas faire. C'est pas valide. Bon. Ni par fax. Alors. Donc, le péché mortel. Voilà. Nul n'est à l'abri. On peut saisir ça comme le feu et puis, ah. Bon. Et ça peut laisser une blessure. Alors, prévoyons. Bon. C'est pas souhaité. Je souhaite à personne de tomber un péché mortel. Bon. Les péchés véniels délibérés les plus communs. Donc, prendre une résolution, là, quelque chose dans ma vie qui va aider sur ces péchés véniels, ces chaînes de péchés véniels délibérés habituels, là. Hein, pour la stabilité et la persévérance de mon âme dans la charité. S'il y a dans ma vie, bon, des fautes véniels délibérées trop fréquentes, qu'est-ce qu'il faut supprimer? Qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Qu'est-ce qu'il faut au moins essayer de sacrifier? La devise de la Légion de Marie, une merveille. L'impossible est divisible en un certain nombre de possibles. Ah, quelle joie! C'est impossible! Non, c'est pas possible! Pas la peine d'examiner! Si! On doit pouvoir faire un pas. Si le bon Dieu le veut, ce qui vous paraît impossible, vous devez pouvoir faire un pas dans la direction. L'impossible est divisible en un certain nombre de possibles. Bon. Voilà. Alors, bien voir ça. Peut-être des sacrifices, la trancher dans le vif, là, dans l'art. Bon. Suppression totale et définitive de ce qui pourrait faire obstacle à la divine charité. Selon saint Alphonse, la première résolution d'une âme qui veut se sanctifier doit être de tout souffrir et de mourir plutôt que de commettre un péché délibéré, fût-il véniel. Oh, j'en suis pas là, mon père. Non, on n'est peut-être pas là, mais il faut quand même marcher dans cette direction-là. Et le demander comme grâce. Et faire ce qui dépend de nous pour... Ah, vous le savez, ça c'est une bonne maxime. Dans la vie spirituelle, pour l'équilibre entre ce que Dieu donne et ce que nous avons à faire. Voilà. Donc faire tout comme si tout... Donc prier. Prier comme si tout dépendait de Dieu. Voilà. Voilà. Prier comme si tout dépendait de Dieu. Et agir comme si, attention, le comme si est important, comme si tout dépendait de moi. Voilà. Et oui, c'est vrai. Prier, agir comme sous, et parce que c'est vrai, tout dépend à la fois et de Dieu et de moi. Prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de moi. Voilà. Alors on indique ici pour le péché, évidemment, la régularité des confessions. Alors, je vous ai dit dans la confession, j'ai dû vous le dire déjà, confession mensuelle, ce serait bien. C'est bien, c'est correct. Au pire, à chaque grande fête. Mais je pense que c'est mieux, si vous avez une vie régulière, que vraiment vous compreniez à quel point la confession apporte un remède positif à notre vie spirituelle, quelle occasion et source de joie et de progrès, au moins mensuelle. Ça veut dire quoi? Alors, résolution, je me confesse ça mensuelle. Non, ça veut dire, la quatrième semaine, c'est semaine rouge. Cinquième semaine, c'est déjà dépassé. C'est comme pour l'heure du coucher. Ah, par là du règlement, qui est un petit règlement de vie. C'est pas le problème du lever, souvent, c'est le problème du coucher. Ah, mon père, mais je me couche si tard, je peux pas rectifier de une heure. Bon, vous ne pouvez pas rectifier d'une heure, d'accord. Vous allez le faire sur 3 mois, mais cette demi-heure-là, c'est zone rouge. Si vous n'êtes pas couché à cette heure-là, attention. Et comme sur les cadrans là, de route, là, une rouge, là, truc. Bon. Alors, ou dans le marchand droit, là, ils disent, un chrétien, 10h30, 11h, 10h30, ça va. 10h, 10h30, c'est bon. Alors, bon, il y a des conditions. C'est sûr qu'il y en a, ils ont des devoirs d'État, je sais pas, moi, les infirmières, ou les, bon, ou ceux qui ont des grandes familles, travaillent, puis ils ont une grande famille. Bon. Mais en tout cas, régler cette question du coucher, du temps de sommeil, c'est important. Je pense que tous les prêtres vous diront qu'aujourd'hui, le grand combat des vertus naturelles, c'est l'équilibre naturel. Avoir une vie à peu près saine. Le sommeil, la nourriture, les temps de repos, les temps de travail. Pour fuir le stress. Bon. Bien. C'est important aussi. Et nous avons plus d'armes que les autres par notre vie chrétienne surnaturelle, par les sacrements, pour mener une vraie vie naturelle. Ça ne veut pas dire seulement une vie biologique. Bon, ça peut être bien de la nourriture biologique et que sais-je. Bon, quand vous voyez, ça ne devienne pas une obsession. Bon. Mais la vraie vie naturelle, c'est l'équilibre d'abord. Bon. Équilibre de la nourriture, d'accord. Équilibre des repas, d'accord. Équilibre du temps de sommeil, équilibre du temps de travail, etc. Quand c'est possible. Quand c'est possible. Ne prenons pas aussi ces résolutions astrales qui sont tellement magnifiques qu'elles ne sont pas pour nous. Ah, c'est magnifique, mais c'est pour les autres. Non, une résolution qui s'applique à moi, dans les cas, circonstances concrètes où je suis. Alors la confession, une des armes triomphatrices du péché et de la tiédeur. Faut-il y apporter plus de fidélité, plus de ferveur? Prendre la résolution de faire chacune d'elles une confession aimante. Le culte eucharistique, on a dû vous en parler pendant la messe, donc au moins la messe du dimanche, ne pas arriver en retard. Ça commence à l'aspergès, la messe, la grand-messe surtout. Bon. Bien. Oui, ça se termine à l'itémis à est, enfin même à l'évangile de Saint Jean, au dernier chant. Bon, ça peut être bien de rester un peu, faire action de grâce. Si on le peut. Et en tout cas, si vous pouvez pas, faites le reste en esprit d'action de grâce. Vous avez peut-être à parler à des gens à qui vous faites du bien au sortir de la messe, c'est bien. Alors dites au bon Dieu. Pas trop systématiquement, parce que ça peut se transformer en bavardage habituel. Attention. Bon, mais ça peut être vrai. Des fois, il y a des gens qu'on ne voit que le dimanche, à qui on peut faire du bien. Alors vous dites, mon Dieu, voilà, je vous ai parlé, j'essaie de bien faire mon action de grâce, au moins pendant jusqu'à la fin de la messe. Et puis, bien, ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites, je vais essayer de faire vraiment avec cette intention-là. Et puis le reste de ma journée, je vous l'offre en action de grâce. Et si possible, je prendrai un petit rendez-vous avec vous aujourd'hui, de 10 minutes à un quart d'heure pour vous remercier de ma communion de ce matin. Très bien. Bon. C'est pas pour vous dire de pas faire d'action de grâce, hein. Nous, c'est systématique, les couvents, les prêtres, d'accord, un quart d'heure, 20 minutes, après la messe. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on apprend vraiment, c'est l'apprentissage de la vie du ciel. Si vous faites bien ce quart d'heure du dimanche d'action de grâce, votre semaine, elle est bénie à tous les coups. Tous les coups, toujours. Voilà, visitez plus souvent notre Seigneur au tabernacle, si on peut assister à la messe. Ah, le dernier point, la charité fraternelle. Bon, si nous avons constaté des manquements graves à cette vertu, n'hésitons pas pour améliorer nos relations fraternelles, des résolutions pratiques et précises. Alors, la médisance, bon, attention, trop parler. L'esprit de curiosité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans la tradition, telle. Bon, des fois, c'est la charité, très bien, hein, c'est bien. Mais autant que, pas plus que. Il y a, malheureusement, si on lit un peu trop, je ne dis pas que c'est la faute des magazines eux-mêmes de la tradition, hein. Fidélitaire, je ne sais pas tout ce qui existe, marchand droit, etc. Mais attention que ça ne vienne pas nourrir notre esprit de curiosité excessif. Attention, autant que, pas plus que. Je ne dis pas les lire, hein, attention. Pas le père, il a dit, il ne faut pas lire, non. Les ventes, bon, d'autant plus que je n'ai pas beaucoup à le dire, mais enfin, quand même. Bon. Prendre des résolutions qui ont la chance de devenir profondes, durables et non superficielles et éphémères. Donc voyons si nous avons manqué par le passé de précision ou de contrôle ou de générosité. Est-ce que nous sommes laissés faire par la lassitude, la peur de l'effort, le découragement? Alors, on va prendre votre feuille et puis dire quelques petits mots pour terminer. Résolution. Donc, précise si possible, ça c'est bien développé, on l'a suffisamment parlé. Améliorer tel ou tel point. On peut avoir tout simplement à reprendre quelque chose. Et le reprendre avec un esprit plus, avec plus d'amour, plus de foi, plus de générosité. Alors, la vie intérieure, vie de prière. Prière du matin, prière du soir. Alors, le matin. Donner un temps à Dieu. Mon Dieu, mon Père, j'ai pas le temps de faire ma prière du matin. Oh, pas le temps? Attendez, on va dire à notre Père et à Je vous salue Marie, à haute voix, tous les deux avec la montre. 1 minute 30! Oh, j'ai pas le temps, mais j'ai le temps de, je sais pas, de faire joujou dans mon café au lait avec les gamins, ou de bailler avec le monde dentifrice. Mais j'ai pas 1 minute 30 pour dire un pater ave calmement pour le bon Dieu. Dites pas, j'ai pas le temps. Dites, je suis trop précipité, je me suis couché trop tard, je me suis levé trop tard, et puis je cours, et puis j'ai pas prévu ce que j'avais à faire. Non, saluons le bon Dieu. Saluons le bon Dieu le matin, même si c'est court. Il y a un principe pour toutes nos résolutions. Quand quelque chose est un bien qui est vraiment important, prendre la résolution de ne jamais supprimer, même si on est obligé de réduire aux acquets, on ne supprime pas. Vous avez pris la résolution, par exemple, cette année, je vais dire mon chapelet. Vous apercevez, dans 3 mois, vous en dites plus de 3 dizaines, à Noël, 2 dizaines, et puis dans 6 mois, il n'y a plus rien. Bien non, vous dites, je vais dire mon chapelet, et avec la grâce de Dieu, je ne descendrai jamais en dessous d'une dizaine, ou jamais en dessous de 2 dizaines, si vous suivez un devoir d'État quand vous connaissez. Pas supprimé. Et quand bien même vous seriez réduit à la petite planche de salut des 3 Ave Maria. Ne pas supprimer, parce que quand on a commencé à supprimer, eh ben on va encore supprimer. Et puis on va perdre la résolution, on va perdre l'oubli, c'est une grâce qui est perdue, qui est enfouie en terre. Mon Père, j'ai pris la résolution, c'était facile pour moi de dire tous les jours 2 chapelets. J'ai pris la résolution du rosaire et j'y arrive pas. Ah, alors, vous continuez de dire vos 2 chapelets et vous faites des invocations à Notre-Dame du rosaire pour qu'elle vous obtienne cette grâce du rosaire. Voilà. Et quand vous n'y arrivez pas, bien humilié, vous demandez pardon, et puis vous dites quelques Ave Maria, par exemple, j'ai pas pu dire aujourd'hui, mon Père, tout est perdu, ah, j'avais promis. Vous allez dire 5 Ave Maria, pour en l'honneur des 5 mystères que vous n'avez pas dit. Vous avez semé une petite graine, un petit désir. Demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, pouf! Ah, vous êtes surpris, pendant une semaine, le rosaire, tout droit. Ou le chapelet, ce que je dis là pour le chapelet rosaire, si vous ne dites pas encore votre chapelet, commencez par la dizaine ou les 3 Ave Maria. Bon, prière du matin, prière du soir. Alors, le soir, mais ne calez pas votre chapelet tout à la fin de la journée. Répartissez sur la journée. Il n'y a rien de pire que de se réciter un chapelet dans l'horreur de la fatigue d'une journée. Rien de meilleur pour se découder du chapelet. Répartissez. Faites pas de la prière au kilo. Hein, ma prière du matin, mon chapelet, telle dévotion, et tac, puis alors après, je peux apporter, puis ça tombe, boum, boum, boum. Alors, vous voulez dire votre chapelet? Eh bien, dites 1 dizaine de votre chapelet comme prière du matin. Voilà, on simplifie. Chut, on dégage. Et j'ai pas dit ma prière du matin, ma prière, ma formule du manuel bleu. Alors, et donc vous allez rien dire, je peux pas dire ma prière du manuel bleu, donc j'ai pas dit ma prière du matin. Ben non! Vous allez prendre 3 prières ou 1 ou 2 prières de votre manuel bleu et elle sera faite pour votre prière le matin. Le bon Dieu sera content. Je dis, je peux pas faire le plus parfait donc je fais rien. Ben non, c'est nul. Bon. Prière en famille. Évidemment. Parce que là, il y a une grâce sacramentale. Je suis toujours étonné des vieux ménages qui n'ont jamais prié ensemble. Oh, ça alors! Alors qu'il y a une telle grâce à prier ensemble. Ouais. Des vieux époux. En priant en famille. Une grâce. Une grâce puissante, efficace. Bon, l'oraison. L'oraison, votre oraison. Alors, suivant. Pareil, voyez l'oraison. C'est vrai que ça me semble difficile. Quelqu'un m'a dit une fois... Enfin, il y en a qui disent, ouais, fais 5 minutes mon oraison. Bon, 5 minutes, c'est vrai, c'est 5 minutes, il faut au moins 5 minutes pour rentrer dans l'oraison. Au moins 1/4 d'heure, mais bon, au moins, admettons, 5 minutes. Bon, eh ben, descendez pas ces 5 minutes, quoi. Et même si c'est qu'une minute, faire un pas vers l'oraison, à ouvrir le livre, lire 3 lignes, eh bien, faites-le. Pourquoi? Parce que vous restez dans la direction. Si vous le faites pas, vous habituez à supprimer. Vous voyez, je fais une petite confidence. souvent, on peut pas lire nous lisons la méditation au couvent. Nous lisons la méditation au couvent le matin et le soir. En temps de retraite, pas question de faire l'oraison, hein. Eh bien, faut prendre au moins le livre et essayer de lire la méditation. Comme ça, on reste dans la direction. Si on peut pas faire deux exercices d'oraison d'une heure. Bon, ou trois quarts d'heure, je sais pas. Bon, le chapelet. Les Benedicite et l'Angelus. D'accord. La lecture spirituelle. Alors, au moins plusieurs fois par semaine, ou une fois par semaine. La vie sacramentelle, on en a parlé. Donc, au moins la messe du dimanche, correctement faite. Les vertus à pratiquer. Alors, souvent, à cause des retraites Saint-Ignace, vous dites, lutte contre le défaut dominant qui va faire pratiquer une vertu. C'est bien, c'est vrai. Ne vous torturez pas trop sur le défaut dominant. À part les défauts dominants, avez-vous des défauts? Eh ben, prenez-en un, et si vous le tirez jusqu'au bout, vous allez voir, vous allez rencontrer votre défaut dominant. À tous les coups. Parce que tout se tient dans la vie spirituelle, tout. Ou même la qualité dominante. À quelle reverte cette qualité dominante? Il n'y a pas un petit peu un petit fond d'orgueil, de satisfaction de soi? Ah, bon, défaut dominant, bon, et pas loin de la qualité dominante, assez souvent. Mais bon, prenez un défaut, peu importe, tirez, et puis tout le reste va venir. D'ailleurs, si on travaille à fond un défaut, on rencontre ce qui domine. Le devoir d'État, s'examiner objectivement par rapport à notre devoir d'État. L'emploi du temps, pas trop serré, parce que quand il est trop serré, on en voit tout balader. Alors, des règles simples. Qu'est-ce que je ferai de ma journée ou de ma demi-journée? Voilà. Y a-t-il un temps pour la prière, un temps pour l'action, un temps pour les relations avec les autres, un temps pour le repos personnel dont je peux avoir besoin? C'est pas voler aux autres, surtout aujourd'hui. Prendre du temps un peu pour soi, pour mieux se donner aux autres. Sans aller dans la paresse, d'accord, hein, on est d'accord. Faire attention à ça. Souvent, la générosité féminine fait qu'on se donne pas assez pour soi, un petit peu pour soi. Devoir envers la famille, bon. Les esclavages, bon, la télé, je pense qu'on vous en parle suffisamment, la télé, l'internet, les esclavages du portable, etc. Bon, poser des règles, hein, poser des limites à tout ça, quoi. Le cinéma, les sorties mondaines inutiles, bon. Le téléphone, l'internet, les cigarettes, bon. Alors, si on a vraiment cette grosse habitude, ça va pas sans souffrance de supprimer. Faut remplacer, hein. Certaines, faut au moins diminuer. Parce que ça, quand on a une grosse habitude qu'on arrête, ça donne d'assez fortes angoisses. Alors, bon. On peut toujours me demander la grâce de complètement supprimer. Il y en a pour qui ça, ils ont obtenu cette grâce-là. Mais en tout cas, si c'est un effort progressif, il faut essayer de le faire progressivement. L'alcool, bon. Ça, il y a le code de la route qui vous aide, il paraît. Les excès de nourriture, les friandises. Bon, la coquetterie et la mode. Bon, le besoin de plaire chez la femme est naturel, mais par le péché originel. Naturel est bon, mais par le péché originel, il est dévié, excessif. Voilà. Je pense qu'on a dû vous en parler dans Femme chrétienne, femme mondaine. Bon. Par rapport à ça, bien. Je dirais, pour l'examen de conscience, mettez-vous souvent devant la très sainte Vierge Marie. C'est important. C'est votre modèle. Elle vous indiquera, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est... Ah là. Oui, mais elle, c'était une palestinienne, mon père. Ouais. La palestinienne, elle a jamais apparu en pantalon. Bon. Ni en mini-jupe, à force. Bon. Bien. Ensuite, les revues mondaines inutiles, ou trop nombreuses. Le mal de la mondanité, c'est de vous faire un pas dans la direction du monde et un pas de moins vers notre Seigneur Jésus-Christ. La formation religieuse, bon, donc, doctrine, écriture sainte, apologie, bah, peut-être lire, au moins vous mettre à lire. Hein. L'action, alors là, attention à ceux qui font rien et ceux qui font trop. Rien, j'ai pas le temps. Pensez, c'est vrai que notre action part de notre devoir d'État. Et dans notre devoir d'État, il peut y avoir quelque chose à faire. Déjà l'exemple, au minimum. Famille, travail. Pas de contre-exemple. Fuir le respect humain. Savoir guetter les occasions. Avoir les antennes de l'apostolat. Tiens, c'est le moment favorable de dire la petite parole qui va bien. De faire le geste qui est bon. L'aide aux prêtres, ça, bon, vient de la générosité de la part de la plupart d'entre vous. Les prieurés, les communautés. Attention que l'aide aux prieurés soit pas au détriment de la vie familiale. Si l'épouse était aussi généreuse à la maison qu'elle est au prieuré, ça irait mieux à la maison. Hein? Plainte de l'époux ou des parents, de femmes trop généreuses, trop aux dispositions du prêtre. Premier bien, c'est quand même le bien et le devoir d'État commence à la maison, autant que possible. L'action caritative, les malades, les personnes âgées. Bon, malades, oui, donc c'est sûr. Les personnes âgées, les pauvres. Alors c'est souvent, il y a les conférences à Saint-Paul, mais simplement déjà l'apostolat capillaire. On a les yeux de la charité, les antennes de la charité, qui a besoin se le dire, se faire savoir, emmener les gens aux messes, etc. Le soutien matériel des œuvres, pis, d'accord. Denier, soutien matériel des œuvres. Bon, ça, j'ose le dire, bon, même nous, capucins, on vous pompe de partout. Et tout le monde a besoin, et nous, les prieurés, les écoles, les couvents, les séminaires, les communautés, les mouvements, oh là là. Bon, alors faites ce que vous pouvez selon ce qui est droit. Voilà. Ah, les séminaires. Très bonne. Apostolat organisé. Les cercles, les catéchies, les groupes de chapelet. L'action des catholiques dans la cité. Alors là, c'est souvent l'aide à vos maris qui font ça. Bon, ceux qui, donc, l'action sociale, civile et politique, que ce soit pas au détriment, bien sûr, au travail professionnel. Mais il peut y avoir là un soutien important des épouses à donner aux maris qui veulent bien se donner à l'action politique, celle qui est possible actuellement. Hein. Et on voit très bien, les femmes sont inspiratrices de courage, de confiance ou de conseil par rapport à ça, si elles n'en font pas elles-mêmes. Hein. Donc, bien ne pas négliger cette fonction importante de la femme de favoriser les bonnes influences. Voilà, les bonnes influences. Rendons-nous à la chapelle.